Du meurtre de Mohamed Bachir a eu lieu ce matin à Perpignan. 8 personnes ont été mises en examen pour l'assassinat du jeune franco-algérien. Parmi eux, l'auteur du coup mortel. Il aurait été identifié lors de la reconstitution, Julie Leduf.
C'est du moins ce qu'a déclaré maître Jacques Martin, le bâtonnier de Montpellier, qui défend le conducteur de la voiture dans laquelle avaient été déposées les barres de plomb ayant servi à frapper Mohamed Bebachir. L'auteur du coup mortel aurait donc été identifié ce matin parmi les 8 prévenus qui sont arrivés menottés et vêtus de gilets pare-balles. Il semble que seuls 2 ou 3 d'entre eux aient directement participé au lynchage. La reconstitution aura donc duré près de 5 heures sous haute surveillance policière. 220 policiers et CRS ainsi qu'un groupe du GIPN s'étaient déployés sur place dès le lever du jour. Pour tenir les curieux et les journalistes à l'écart, on devrait maintenant avoir plus d'informations cet après-midi. Le procureur de la République de Perpignan doit s'exprimer. Julie Leduf, France Bleu Roussillon pour France Inter.
La 26 Calais-Reims, toujours coupée dans les deux sens. Près de Cambrai, un poids lourd est stationné sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une fuite de benzène. Déviation par la 2 et la 20. 29, pardon. Ça commence bien pour les Français au championnat d'Europe d'athlétisme à Göteborg en Suède. Yonis Barber a remporté la première des 7 épreuves du heptathlon, le 100 mètres et. Ronald Pognon s'est lui qualifié pour le second tour des séries en 100 mètres. Et Marc Raquil s'est qualifié pour les demi-finales du 400 mètres. Et on part tout de suite à la Bourse de Paris. On retrouve Vincent Bozon et le CAC 40 est en baisse, Vincent.
Eh bien oui Céline, après s'être adjugé plus de 5% lors des 3 semaines écoulées, la Bourse de Paris subit des prises de bénéfices assez prononcées ce lundi, le CAC 40 se contractant de 1,29% à 4 975 points dans des volumes de 1,5 milliard d'euros et la tendance s'avère tout aussi négative sur les autres places du vieux continent. L'Euro First 80 abandonne ainsi 1,26%. Ces replis traduisent une certaine nervosité des investisseurs alors que la crise au Proche-Orient n'a pas encore trouvé de dénouement et que se profile demain la réunion de la Réserve fédérale des États-Unis, réunion qui pourrait bien se solder par une pause dans le cycle de resserrement monétaire outre-Atlantique. En attendant le verdict de la Fed, l'euro s'établit à 1,2854 sur le marché de l'or à Londres. L'once de métal fin se négocie contre 647,25 $. Le CAC 40 se contracte de 1,3% à 4975 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h04 sur France Inter. Tout de suite, on retrouve l'Afrique enchantée avec Solo Soro et Vladimir Cagnolari.
Merci Céline Aslow. On vous retrouve dans une petite heure pour un nouveau point sur les informations. Suivez-nous.
Hey you girls, c'est pas moi, Kamenga. Grâce à toi, Germando. Riche, pauvre, tout le monde a droit à l'amour. Ouh! Ah là 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 là. Ça, c'est l'ambiance.
Quoi, quoi, quoi? Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée.
Oh yeah!
Vladimir Cagnolari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Nous vous convions à un nouveau voyage sur le continent africain, un voyage en musique off course, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'une personne à laquelle nous tenons tout particulièrement. Elle est belle et forte, courageuse et tendre, elle supporte tout mais elle console quand même tout le monde. Je veux parler de la maman africaine. Alors suivez-nous, on retourne en enfance, collé avec bonheur contre le dos tout chaud des mamans d'Afrique. Et avec moi pour vous accompagner dans ce périple, tout en douceur et en tendresse, j'ai le bonheur, et le mot est trop faible, d'être accompagné d'un papa qui, par l'omniprésence et la délicatesse de ses attentions, pourrait postuler au titre de maman. J'ai nommé Soro Solo, elle sait nous faut. Magnifico, bonjour Solo, ça va?
Et lui, c'est le fiston le plus prévenant qui puisse exister sur la terre des hommes. Bonjour Vlad.
Et avec toutes ces congratulations, là, je ne sais pas comment on va faire pour être modeste. Bon, Solo, je disais justement qu'on allait voyager attaché sur le dos d'une maman africaine. Et c'est vrai que moi, quand je vois des petits bébés bien arrimés au dos de leur maman, en train de dormir, les deux bras et les deux jambes écartées, avec aux lèvres un sourire béat, et ben je vais te dire une chose, je suis tout simplement jaloux.
Non, je te comprends parfaitement, ouais. On a tous été portés comme ça. Et au contact permanent de la maman,
On danse dans son dos, au rythme quand elle pile du mil ou quand elle casse du bois. En fait, le territoire de la vie de bébé, c'est le dos de maman. Là, on fait tous les besoins. On mange, on danse, on s'amuse.
Voilà. Justement, préparez-vous avec nous à danser, chanter, rigoler. Aujourd'hui, on va se glisser dans les plis du doux boubou de Mama Africa.
L'Afrique enchantée, c'est grave.
C'est ça.
Sweet mother, I no go forget you for the summer way you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the summer way you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin. You dey cry, yo yo. Stop, 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 stop. Make you no cry again, yo. When I was sleep, my mother go pet me. She go lie me well, well for bed. She cover me close, say make you sleep. When I get hungry, my mother go run up and down. They find me something when I go trouble. Sweet mother, sweet mother, oh,
son of my sweet mother. She not get tired, huh? Sweet mother, I no go forget the summer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah. Sweet mother,
oh, yeah. Oh, sweet mother, I never forget you. For the summer you suffer for me.
chop. My mother no go chop. She no dey die ya.
Mother de Prince Rico Mbarga sur France Inter. Vlad, je crois que ça c'est vraiment un hymne que tous les enfants de la terre devraient adresser à leur maman. Parce qu'il dit, ah, oh, ma maman, je ne t'oublierai jamais. Ma maman, quand je crie, tu arrives et tu me prends dans tes bras et tu dis, stop, arrête de crier. Pourquoi cries-tu mon fils? Ne pleure plus. Et quand j'ai faim, tu cours et tu vas me chercher de quoi manger. Et tu viens. Et quand j'ai sommeil, tu viens me bercer dans mon lit. Alors, c'est trop beau, Sir Maza. Alors, on l'a dédié à toutes les mamans de la planète. Et Prince Nico Mbarga a sorti cette chanson à la fin des années 70. En fait, c'est un Camerounais d'origine, mais qui a grandi au Nigeria, le Grand Nigeria à côté, en Afrique occidentale, toujours à Bocarte, dans le golfe de Guinée. Et dans ce grand pays, il a pris l'accent et il parle le pidgin de là-bas.
C'est-à-dire l'anglais.
L'anglais mélangé.
Façon,
avec l'accent et des mots même inventés. When I'm hungry, she run and carry something for me to chop. C'est pour manger. Et le prince Nico Mbarga, à l'époque, sa tenue de scène et sa tenue vestimentaire, c'était surtout, la particularité, c'était surtout des grandes bottes avec un talon super compensé. Et comme son groupe s'appelait le Rockafil Jazz, toute cette mode de chaussures à talons compensés a envahi toute l'Afrique occidentale et on a appelé ces chaussures les rocafiles.
Celle avec les talons très très hauts la comportait éventuellement avec des pattes d'ève, non?
Ah, exact, avec les pattes d'ève, super compensées. Il faut que la botte monte jusqu'au mollet.
Oui.
Ah ouais, fille comme garçon, nous tous on était accro à ça. Hein.
Tu as appris à danser avec ça toi?
Ah comment? Tu bringues avec ça et puis tu montres tes rocafiles pour montrer que tu es très à la mode.
Bon, solo en tout cas, pour parler des mamans africaines, non? Maman, c'est vrai que même si on en a déjà parlé quand on évoquait la condition féminine, les femmes bien souvent ont la vie dure vu le boulot qu'elles abattent.
Ah, je te fais pas dire.
Malgré cette vie dure là, elles sont aussi d'une extrême douceur.
Oh là là, je crois que on est tous d'accord. Vraiment, c'est pas de la démagogie. L'être humain le plus doux sur la planète, c'est certainement la maman. On ne peut pas dire la femme en général. Et toi, j'ai fait ce qui me l'exemple par lequel je pourrais illustrer la douceur de la maman, c'est à partir d'un constat dans mon pays. Quand on assiste à un accident de la circulation, et le badaud qui a court, les hommes, appelez les pompiers, appelez l'hôpital. Et les mamans, elles ne gesticulent pas, elles ne hurlent pas. Le premier geste qu'elles font, c'est de faire le pain qu'elles ont noué à leur taille et vont couvrir le corps qui est étalé sur la chaussée par le véhicule. Et tu vois, et c'est plein de tendresse. Déjà, tu vois, le geste protecteur de la maman, cette douceur qu'elle incarne, ça se traduit même dans un cas de figure d'accident de la circulation. Et puis, j'ai mon exemple personnel. Permets que je le partage avec mes auditeurs de France Inter. Tu vois, j'ai déjà expliqué que j'ai une famille adoptive ici en France, à Paris. Et ma mère adoptive, des fois quand je me réveille et qu'elle voit que je n'ai pas le moral, que je suis triste à cause de la nostalgie du pays, à cause des soucis, rien que le regard qu'elle pose sur moi, il t'apaise. Et Marie-Christiane, je t'adore. Et pour dire à quel point les mamans sont douces, un jour je rentre et j'avais la grippe. Moi je ne supporte pas l'hiver, j'ai tout le temps 15 000 grippes, 15 000 rhumes. Et je rentre dans le séjour. Bonjour Marie-Christiane, oulala, lui-là, il est enrhumé. Elle fonce tout de suite dans ses réserves de médicaments et de sirop et vient me porter le sirop à la bouche alors qu'elle a même pas plus de 6 ans de plus que moi. Hein. Donc, c'est plus une grande sœur biologiquement. Mais là, c'est le geste de la maman, la tendresse de la maman, la douceur de la maman. Et vraiment, il faut insister là-dessus.
Et là, tu parles bien de ta maman africaine qui est française, puisque c'est aussi la mienne. Enfin, moi, en tout cas. Il y a une chose qui frappe, si on revient, on quitte Paris là, et on retourne au village. On en avait déjà parlé un petit peu, c'est la manière dont les petites filles elles-mêmes, dès leur plus jeune âge, elles sont, même dès l'âge à partir de l'âge où elles peuvent tenir debout même, elles sont habituées à être des mamans en puissance. On en voit même qui portent des bébés alors qu'elles ont tout juste peut-être quoi, 4 ans
4, 5 ans. À 4, 5 ans déjà, la gamine, elle commence à donner un coup de main à sa maman. On l'a déjà évoqué, en portant le bébé, en participant au ménage et... Toutes ces choses que les jeunes filles apprennent, c'est bon, bien sûr, les tâches classiques, le ménage, mais il y a aussi l'apprentissage de la séduction, l'apprentissage de la sexualité, l'apprentissage de l'érotisme. C'est les mamans ou les tantes ou les grand-mères qui leur montrent les herbes qu'il faut brûler pour s'embaumer le corps, pour que dans l'acte de l'amour avec leur homme plus tard, et ils soient accros jusqu'à ne plus pouvoir aller ailleurs. Et je pense qu'un des ouvrages qu'on pourrait citer, je reviendrai peut-être là-dessus, c'est l'ouvrage d'Éric Orsenan, et le titre c'est Madame Ba. On voit là-dedans comment la jeune fille est éduquée pour être préparée à sa future vie de couple.
Et de maman aussi, hein, puisque du coup, elle apprend à gérer les enfants, à les nettoyer.
À gérer les hommes.
Oui, avant de gérer les hommes, encore faut-il savoir gérer les enfants. Elles apprennent tout ça, en tout cas. Et alors justement, là, pendant qu'on parle de tout ça, vous entendez derrière nous des jeux de tambour d'eau. On avait parlé ici, en fait. Ces tambour d'eau, c'est cette façon qu'ont, dans certains pays, là c'est en Afrique centrale, au Cameroun, si je ne dis pas de bêtises, les femmes battent l'eau de la rivière avec la paume de leurs mains. Et selon si on enfonce les mains plus ou moins profond dans l'eau, et ben ça fait des sons différents. Et bon, on avait déjà parlé de notre goût particulier de voir ces naïades au bain, tandis que la lumière du soleil filtre à travers les feuilles et jette des éclats de lumière sur leur peau luisante de l'eau qui éclabousse partout autour.
Le
et donc, les mamans et les mamans et les petites filles se retrouvent par exemple là-bas, quoi. Et alors justement, les petites filles, mais les petits garçons aussi, peuvent accompagner leur maman à la rivière, mais aussi chercher du bois pour la cuisine, chercher de l'eau, laver le linge, etc. En tout cas, les mamans emmènent leurs enfants partout ou presque dans le contexte villageois. Et dans le Congo du début des années 50, c'est justement comme ça que faisait la maman de Chungu Wemba Diopen Kikumba, plus connu sous le nom de Papa Wemba, un chanteur congolais.
C'est vrai que j'ai été protégé par ma maman, parce que mon père, c'était un homme à femmes. Il avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir traversé toute une décennie. J'étais avec ma maman, et comme elle me protégeait, j'étais comme sa petite sacoche, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'amenait partout avec elle. Elle m'amenait partout avec elle. D'ailleurs, je tiens à remercier ici, parce que dans une de mes chansons que j'ai fait pour elle, j'ai dit, même si je dois renaître encore, je préfère que ce soit toi seul qui sera ma maman, quoi. Donc, voilà.
Comment s'appelle cette chanson?
Maman. Maman. Et puis ma maman, elle aimait bien chanter. C'est pratiquement tous les jours qu'elle chantait. Même quand elle faisait le ménage, elle chantait, quoi. Elle chantait. Et quand elle chantait, elle donnait des chants de poule. Vraiment, elle donnait des chants de poule. Tellement elle chantait bien. J'ai grandi vraiment avec ça. Et c'est ça un peu qui m'a quelque part poussé. Et puis elle était là aussi pour m'encourager. Et je l'ai dit tout le temps qu'elle était pour moi mon premier prof de chant. Parce que quand elle me demandait de fredonner un air nouveau, et quand je le faisais bien, elle était là pour m'applaudir. Et quand je ne le faisais pas bien, donc elle me corrigeait. Donc à la fois, elle était pour moi mon prof et mon premier public aussi.
Et de ces chansons qu'elle chantait dans ces occasions-là, est-ce qu'il y en a dont tu te rappelles?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même repris un air dans une de mes chansons que j'ai publiée il y a plus de 10 ans, quoi. Ya yo, ya yo, ya yo, yo, yo. Ya yo, ya yo, ya yo, yo. Ah, Wemba, Wemba, na Wemba, yo, yo. Ah, yo, 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 yo. Voilà.
Et ça disait quoi?
Oh, juste, elle est tentée de chanter pour moi. Elle répétait
mon prénom, Wemba.
Salana berso ya maman Ele kele nikole Kabambe konya songa na lala Mama soki ozala kikaka na bomoi Mbele na sengi zongi sanga susu wana Jamolinga kingana lela yo sepa Jamolinga kiyovola langa na lamuka Jamolinga kiyatangu ya kukisangai Soki na belo zalaka kota na tongosa Bana yo kena na koma abandonere Rekompense na yo na kopesa na nyango Hata na leli na kodorlo tenga arara Nyango na yembeli onzembo yo mama nyondo Elengi ya libele ya mama Yele ki para sete nyon soya ba Kordo blenga na liya Hata mafuta tomati ezala kiteo Kasi ango yele kakande monsuni lelengi Banda yo kenda peti esi langa Na koma koli ya kakapona sepelisande monoko Melona kanisia mingi mama yondo Bonjour anniversaire na ma et comme pena mama L'invité va polia va comme la masa la wo wo Yo foto artisana ngoyo zalite mama Ye pa yo zalisa kwa kutani na okasia e Tinte langa karta de fe ata fololo Esengo nanga eko jala multiplie fois deux Normalement fête ya lelo e jali ya yo Serma d'Hippocrate, ba medese ba kosalata Yanga serma yozala toujours mama nangai Ata baba neli mokili soki mbalaka mae Yanga serma yozala toujours mama nangai Mama soko zala kigaga na bomoi Mbele na sengi zongi sanga susu wana o Mama soko zala kakaka na bomoi Mbele na sengi zongi sanga susu wana
Ça, c'est Maman de Papa Wemba sur France Inter. Et cette chanson a été enregistrée en public au New Morning le 15 février 2006, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est un morceau en hommage à sa mère qui est décédée. Et Papa Wemba s'adresse directement à sa mère. De tous les lieux où j'ai couché, aucun ne vaut le berceau où tu te penchais sur moi. Tu me protégeais des moustiques. Et quand j'étais malade, tu passais des nuits entières à me veiller. Comment vais-je pouvoir te récompenser maintenant que tu es parti? Il ne me reste plus, maman, qu'à te dédier cette chanson.
Allez, on va parcourir quelques centaines de kilomètres un peu plus vers l'est du Congo pour écouter un autre hommage aux mamans. Il est signé du groupe Super Mazembe, c'est Ba Mama.
pesa biso batulie wana nanga epaya sokokende ebaka na bakati ya
maman, ça ce sont les mamans, c'est la traduction du titre. Et c'est par le groupe Super Mazambé de l'Est de l'actuelle République démocratique du Congo.
Et bah maman, les mamans donc, elle est chantée par un musicien, elles sont chantées hein, puisque c'est les mamans en général. Et donc l'histoire c'est que c'est un musicien qui en a marre de bosser comme un cheval pour être payé en monnaie singe. Et là je cite notre conseiller spécial des affaires congolaises, Kerwin Maïso, et vous l'aurez compris, il aime bien la métaphore animalière. Et donc notre musicien qui en a marre de bosser comme un cheval pour être payé en monnaie de singe, et ben il décide de s'en aller, d'aller refaire sa vie ailleurs. Et du coup, on est sur le bord du fleuve Congo, la sirène retentit, le bateau va partir vers l'intérieur du pays, et sur le quai, une maman éplorée prodigue des conseils à son fils.
Mon fils, regarde bien où tu mets les pieds, et n'oublie pas, même quand tu pars au loin, de regarder en arrière et de penser un peu à ta mère.
Maman Nangaï, ma maman chérie, ne t'en fais pas. Toi et toutes les mamans, il faut bien que vous acceptiez que vos fistons s'en aillent pour refaire leur vie ailleurs.
Oui, oui, mais pense tout de même un peu à ta mère.
Oui, oui, c'est promis, maman.
C'est vrai que les mamans sont toujours très attristées quand leurs enfants partent à l'aventure. Mais elles ont toujours le conseil essentiel. Ah, et là-dessus, je vais revenir encore de là où je viens. Parce que de toute façon, l'on ne connaît que la saveur de la source qui coule près de son village.
Mmh, bon,
je veux partager avec nos auditeurs de France Inter ce conseil de maman. Nos mamans, quand on va leur dire au revoir, je vais à l'aventure, elle dit, écoute mon fils, quand tu viens dans la vie, que tu sors du sein de ta mère, tu viens dans la vie sur la terre des hommes, tu viens dans le bras des hommes. Quand tu as fini ton parcours ici sur terre et que tu vas dans la vie de l'au-delà, tu repars dans le bras des hommes. N'oublie pas, mon fils, où que tu seras, au milieu des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes, des verts, que l'homme soit au centre de tes préoccupations. Si tu respectes l'homme, il te respectera. Si tu tiens compte de l'homme, tu feras le tour de la planète et toutes les portes s'ouvriront à toi. Conseil de maman.
Bon, voilà l'instruction. En tout cas, justement, Solo, parmi les rôles l'éducation qu'ont le papa ou la maman, un peu traditionnellement chez toi, quelle est justement la part de la maman et la part du papa dans ce qu'on apprend étant enfant ?
Globalement, on reçoit, je veux dire, les conseils de base du papa et de la maman. Mais la mère, elle mettra plus l'accent sur la vie de l'enfant dans ses rapports sociaux avec son entourage. Fais attention, sois respectueux et respecte les anciens. Si tu rencontres un ancien sur le chemin du champ, prends-lui son bagage et raccompagne-le jusqu'à la maison. Et les mêmes enfants, quand ils deviennent adultes, les conseils de la mère se porteront plus sur la vie de couple. Mmh. Si c'est un garçon, dans son rapport à elle, à sa femme, comment il doit la respecter, comment il doit être disponible, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter de la fâcher. Et si c'est une fille, pareil. Et aussi, pour les filles, c'est particulier, c'est comment se comporter dans le lit. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure.
Tu avais pris un malin plaisir à développer ce pan-là de l'éducation des filles. Ouais.
À l'érotisme, à la sexualité, les petites herbes qui embaumaient, qui ramenaient le mari fou, là. Ah. Et puis, il ne peut plus regarder ailleurs, là. Oh, ce sont ces conseils que la mère va donner. Mais quant au père, c'est, bon, essentiellement sur ce qui est en rapport avec la production, comment entretenir un champ, quel type d'engrais il faut, bref, la production. Et aussi, la prise de parole en public. Comment observer le regard des anciens dans une assemblée pour savoir à quel moment prendre la parole.
Parce qu'on ne coupe pas la parole, c'est très extrêmement mal poli, voire blasphématoire. Mais...
Oui, tu coupes la parole à un ancien ?
Non, moi j'ai rien fait.
Ah bon, d'accord. Mmh. Ça, c'est très grave. Ou... De quelle métaphore, de quel proverbe précédait ton propos avant de prendre la parole. Ce type d'enseignement, ça viendra plus du père. Et aussi, le père va initier ses enfants, les garçons surtout, au secret des rites et traditions. À l'âge de l'initiation, comment il devra se comporter quand on va le soumettre aux différentes épreuves. Celle du feu, celle de l'eau, celle de la persévérance, de l'endurance.
Ça, c'est le papa avec les fistons.
Ça, c'est le papa avec les fistons.
Et côté filles, les mamans aussi font une initiation, enfin procèdent à l'initiation des filles.
Ah oui, puisque de là où je viens, il y a aussi des formes d'initiation strictement encadrées, organisées et dirigées par les femmes. Et la maman va également dire à sa fille comment se comporter avec les anciennes, avec les matrones. Je voudrais dire... avec la honte qui peut me couvrir, que je viens d'une tribu où on pratiquait l'excision. Et donc, la maman va donner des conseils à sa fille, comment se comporter avec la matrone, et comment serrer les dents.
La matrone, c'est celle qui pratiquait justement l'excision.
C'est la prêtresse qui s'occupe de l'excision. Comment serrer les dents pour rester une fille digne qui ne hurle pas au moment où on l'initie enfin, à cette pratique rétrograde, mais elle est en train de disparaître.
Mais moi, je pensais, entre autres, aussi à des formes d'initiation qu'il peut y avoir par rapport aux filles chez toi, et qui sont beaucoup moins violentes, et surtout beaucoup plus drôles. Tu m'avais parlé d'une chanson ou de chants que les filles apprenaient avec les mamans.
Et, par exemple, des berceuses pour comment calmer un bébé qui en pleure.
J'ai bien dit, tu aurais dû être une maman.
Voilà, c'est une berceuse qu'on apprend aux petites filles pour calmer les enfants qui pleurent.
Solo, et ce partage des rôles dont tu parlais un petit peu, donc là plutôt en contexte villageois, est-ce qu'on retrouve ça à la ville ou bien comme toujours à la ville, tout est mélangé?
Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Il faut dire que nos villes se sont créées quand les hommes, enfin bref, par le contact avec l'Occident. Et l'exode rural s'est développé plus au niveau des garçons. C'est le garçon qui part à la ville chercher une meilleure condition de vie. Donc la femme qui vient rejoindre son mari à la ville, elle n'a pas les clés pour ouvrir les métiers de la ville. Elle n'a pas la formation pour les métiers de la ville. Donc le rôle de la maman à la ville est essentiellement ménage et l'éducation des enfants.
En même temps, en ville, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent, on les voit.
Voilà, mais c'est plus tard, c'est le petit commerce qu'elle fait à proximité de l'habitation familiale, le vente de repas rapides sur le trottoir, vente des grillades, vente des fruits, mais en même temps, elle a l'œil sur la maison et s'occupe. Et d'ailleurs, si tu vois la carte d'identité de ma mère, profession, c'est marqué ménagère. Beaucoup de nos mamans, c'est comme ça. Parce qu'à la ville, elle s'occupe de torcher les mômes et puis de s'occuper du ménage, quoi. Et le mari, c'est l'homme qui rapporte du fric, qui travaille et rapporte le fric, et la maman s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, mais ceci dit, au fur et à mesure que la scolarisation a commencé à intégrer les jeunes filles, dans les couples modernes, dans les familles modernes, les rôles sont répartis un peu à la traditionnelle. Tout ce qui a rapport au corps, ce sera la maman.
Pour la fille.
Pour la fille. Et tout ce qui a rapport à la production, à la vie dans la société moderne, ce sera le père pour la fille et pour les garçons.
Alors en ville, il y a un problème qui se pose et qu'on voit de plus en plus sur le continent, c'est le problème des orphelins, qui est un problème et qui n'existe pas, ou en tout cas pas du tout de la même manière, en contexte villageois.
Par exemple, ceux auxquels on assiste dans les villes et qui est devenu un drame, c'est l'abandon des enfants non désirés. Et d'abord, on n'est pas dans le même contexte social, donc l'enfant, la fille comme le garçon ne sont pas éduqués, ne sont pas pris en charge par l'ensemble du tissu social.
Comme c'est
le cas au village. C'est le fils et la fille de papa et maman, point barre. Mmh. Et résultat, une fille qui tombe enceinte précocement, et d'abord, elle est rejetée par la famille. Il y a deux chances sur trois qu'elle soit rejetée, parce que elle a jeté la honte sur la famille.
Parce qu'elle ne s'est pas gardée pour le mariage, etc.
Elle n'arrive pas vierge au mariage, elle n'a pas un fiancé avec lequel elle a eu cet enfant. Donc, il y a deux chances sur trois qu'elle soit rejetée. Et du fait de ne pas avoir de ressources pour s'occuper de cet enfant, on a vu des cas de figure dans la chronique des journaux où on a retrouvé des enfants dans des poubelles, où la fille va accoucher à la maternité et elle disparaît de la circulation en laissant son enfant à la maternité. Résultat, comme il n'y a pas beaucoup d'infrastructures d'accueil des orphelins, eh bien c'est ainsi qu'on a assisté à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants de la rue dans nos pays.
Et c'est vrai que le nombre des gamins des rues, justement, il a explosé ces 15 dernières années dans la plupart des grandes villes d'Afrique, et c'est le cas par exemple à Nairobi, la capitale du Kenya, qui est un pays plus connu pour ses grands animaux que l'on peut admirer même du haut d'une montgolfière. Et parfois, quand on sait ça, on se prend un peu à imaginer qu'un grand coup de vent déporte le ballon vers les faubourgs de la capitale, vers les slums, les ghettos, comme ceux de la vallée de Mataré, aux portes de Nairobi. Et c'est de là que viennent les rappeurs du collectif Kilio Chahaki. Et l'un d'entre eux, justement, a été abandonné, tout bébé, par sa maman. Et il chante, en swahili, en anglais, vous allez l'entendre, le manque de cette maman qu'il n'a jamais connue et dont la présence aurait sans doute complètement changé sa vie. Et c'est justement le sens de la chanson qui arrive.
Le rappeur kenyan Kilio Chahaki chante l'absence de la maman et ça s'appelle Mama Way.
Struggle it again. Don't see definition of success. But caught up, caught paper chase. Nigga choose mic. Work it up to kasi ku internet. Intellect, willing to educate. Streets no taka funi terminate. Radios na nipiga hate. Round the ni me kucha kuvuna. Kutafuna.
Yeah.
Fruit for plate.
Many results before alcohol, divorce, zina break many homes. Kasi cop, sitting here all live at a crop. Hesitate, kumpa door. Pwa! Home soul yako in a go. Surrounded na crime, my life. I'm about the same train na kiria miti. Futi sita chini wana nita kamimi. Kisha jua koroge simiti.
Yeah.
siku nawaza kama ungekuwa hapa, kama maisha yangu angeniendea mrama, kama baba hangekuwa kutuonyesha mwanga, ama ni hisia tu sasa na kufikiria. Nilitamani maisha sawa na wale mtaani, miaka 22 hujui kama niko hai, wazo langu akilini ulikuwa mumtaki, mafikiri kichwani na sasa navuta bangi, na sisi kutoa machozi kwani umetuacha upweke, anacholilia tu ni kutaka wewe na kuona wewe, mateso kuvumilia sasa nisiseme, nitenge ukweli uongo ama nifanyeje, mama kwa Mungu na dhambi nyingi kutubu, ukiniacha miezi sita ukunipa hata busu, utulivu ula mbivu basi nala vigumu, siku zote hizo utawahi rudi mamangu, uko wapi we, uko wapi we,
mengi nishapitia kwa hii hell, mpaka zingine ni hard to tell, masimu nyingi nisha sell lakini haziku hell, blanch ndo nilizijiku in hell, zikinipatia mastori za kutel, na meditate nazo ndani ya head, question ikiuliza yule alini make, nini nilifanya ndo nipitie through his shit, mtani naonekana kama social misfit, nyumbani nakalika kwa hii family si fit, tumbo yangu wenyewe ni hard we feel, ndani ya heart na bleed, kila siku ni keep bleed, please masi nione, dambi zangu niondole.
Par le collectif de rappeurs Killio Chaki et ils sont du Kenya, c'était sur France Inter.
Et la chanson, elle fait un peu penser au personnage principal du film Mon nom est Tsotsi, qui est encore à l'affiche. Je le rappelle, c'est le premier film africain à obtenir un Oscar. Est-ce que c'est petit?
Ouais.
Alors, et donc dans le film Tsotsi, il y a ce jeune homme qui s'appelle Tsotsi, qui vit de rapine et qui fuit la maison, d'abord parce qu'il a un père alcoolo qui bat sa mère, une maman qui, justement, elle finit par décéder, et on devine que c'est du sida qui ravage ce pays comme presque aucun autre au monde, et qui laisse chaque année, tous les ans, donc pas mal d'orphelins sur le carreau. Bref, Tsotsi braque une voiture, il s'enfuit avec sans s'apercevoir qu'à l'arrière de la voiture, il y a un bébé. Un bébé qu'il n'a pas le courage d'abandonner. Mais le problème, c'est qu'un nourrisson, il faut bien l'élever et surtout l'allaiter. Donc, il oblige une jeune maman célibataire du quartier à l'allaiter. Et c'est justement dans la redécouverte de cette douceur maternelle dont lui a été privé qu'il va retrouver un sens à sa vie. Et il y a une scène incroyable où on le voit assis, son flingue à la main, en train de regarder justement cette jeune et jolie maman qui allait être le bébé volé. Et on s'aperçoit à quel point ce gros dur est complètement ému et intimidé, et le rapport de force entre celui qui a le flingue et la maman qui allaite est complètement inversé. C'est elle qui est forte et c'est lui qui est en position de faiblesse. Bref, c'est vraiment un des moments forts du film et je vous le recommande. Donc encore une fois, et à force de vous le recommander, je sais, vous allez peut-être être fatigué, mais moi en tout cas, il va falloir que je songe à demander des royalties.
L'Afrique enchantée.
Il y a un trait qu'on retrouve quand même assez fréquemment sur le continent, c'est que une femme n'est vraiment une femme que quand elle est maman. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on vit.
Ah ben tout à fait. Et tout à l'heure, j'expliquais comment les petites filles étaient éduquées pour être d'abord des mamans. Et dans leur rôle de maman, on les éduque aussi à comment, en quelque sorte, tenir tête aux hommes qui sont très souvent des dictateurs dans le rapport de couple. Il y a chez moi une forme d'initiation où on enseigne à la jeune fille qui deviendra plus tard une femme, comment ces chansons où elle peut tourner en dérision les hommes. Et c'est cette initiation qui est contrôlée par les femmes, s'appelle le tchapung, le tambour des femmes. Et dans ces chansons, elle dépeigne les hommes, leur côté complètement négatif, et même parfois en rapport avec leur physionomie, leur physique. Et d'ailleurs, quand le pain est arrivé dans mon village, dans ma région, la première fois,
la baguette
de pain, la chanson disait « Waganimbure chayon, waganimbure chayon, fanganyan mekaraga burouaya ». N'achetez plus cette baguette de blanc. Vous ne savez pas, c'est la chose des hommes là, qu'ils ont entre les jambes. C'est cette chose là qu'ils ont transformée en baguette. Enfin voilà, c'était une parenthèse à ouvrir. Pour dire que la formation de la gamine, de la jeune fille est totale, complète, spirituelle, morale, physique, etc. Donc ces jeunes filles, quand elles grandissent, ça devient quelque chose de très très important, voire d'essentiel, d'avoir un bébé, d'être une maman, d'avoir des enfants. Et le problème aussi, c'est que toute fille qui est pubère, c'est une maman potentielle. Et ça explique que les filles puissent se retrouver enceintes très, très très tôt, parfois même trop tôt. On a vu des cas de figure des gamines sont tombées enceintes à 10 ans, parce qu'elles étaient précoces. Et ce qui met un terme à leurs études. Et là encore, tu vois, le fait de mettre que les grossesses mettent terme aux études, dans nos pays où il n'y avait pratiquement pas de véritable législation d'organisation de l'école, toute gamine qui tombait enceinte, on la renvoyait de l'établissement. C'était une injustice, mais par contre, les garçons, ils n'étaient pas renvoyés.
Oui, justement, à ce propos, l'an dernier, il y a un député ougandais. Donc, si vous avez une carte sous les yeux, l'Ouganda, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, cet immense pays en plein cœur de l'Afrique, et juste en dessous du Soudan. Et donc, en Ouganda, l'année dernière, il y a le député du district, d'un district du centre de l'Ouganda, qui a annoncé qu'il était prêt à offrir de sa propre poche des bourses d'études supérieures aux filles de son district, à condition qu'elles soient vierges. Oui, c'était une sorte de garantie qu'elles n'interromperaient pas leurs études à cause d'une grossesse impromptue ou qu'elles ne postuleraient pas à la bourse alors que deux mois plus tard, elles allaient devenir enceintes. Et bon, je sais pas vraiment si ça a fonctionné, mais en réalité, pour la quinzaine de filles de ce district qui vont à l'université chaque année, c'est-à-dire bien peu, finalement, la pilule sera peut-être été un peu plus simple.
Remarque, tu vois là encore même les institutions internationales ou dans le cadre de figures que tu viens de citer, je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage d'Eric Orsena, Madame Ba. Dans cet ouvrage, le personnage de Madame Ba, la fille de Madame Ba, va à l'école et c'est une fille. Mais comme dans toutes les traditions, on l'avait déjà promise à un mari qu'elle avait déjà, avec lequel elle s'était déjà installée, elle continuait de faire des études. Et une représentante de l'ONU, qui était là pour encourager la scolarisation et le développement de la femme en Afrique occidentale, lui trouve une bourse et lui promet l'ouverture sur le monde si elle fait des études jusqu'au bout. Mais discrètement, elle lui donne des comprimés. En fait, c'était des pilules. Mmh. Elle lui donne le mot d'emploi. Et la dame, la jeune femme, prend ses pilules et elle constate qu'elle ne fait pas d'enfant. C'était la honte dans tout le village. Elle sait que son homme est fertile, il est viril. Et comment se fait-il qu'elle ne fait pas d'enfant? Elle a réalisé que c'était à cause des pilules. Elle a arrêté de prendre ses pilules. Elle est tombée enceinte. Ses études se sont arrêtées. Et elle a perdu sa bourse.
Mm-hmm. En tout cas, en ville, solo, y compris chez les femmes qui ont d'excellents niveaux d'études, malgré tout, avoir un enfant, ça reste aussi, là encore, très important.
C'est absolument important, quel que soit le statut, le niveau d'éducation, le nombre de diplômes qu'on a, si on n'a pas d'enfant, on est déconsidéré au catégorie. Regardez-moi celle-là, elle veut parler devant nous ici, papier longueur des blancs, elle a fait là, mais son ventre-là, c'est stérile, on dirait que Margot, pendant la saison sèche. Ouais, c'est la honte, voilà, quel que soit le niveau d'études.
Ouais, c'est presque une malédiction. Quoi.
C'est la malédiction.
Bon, en tout cas, la maternité, c'est certes un enjeu crucial pour toutes les femmes du monde, mais peut-être encore plus pour les femmes d'Afrique, à cause justement de la pression sociale dont tu parles. Et l'écrivain sénégalaise Ken Boul en sait quelque chose, puisqu'elle a été confrontée à ces problèmes, d'abord parce qu'elle a travaillé sur ces questions dans une organisation internationale qui s'occupait justement de planning familial, et puis qu'elle a été confrontée ensuite, elle-même, à ce problème, puisqu'elle ne réussissait pas à avoir d'enfants. Aujourd'hui, Ken Boul vit au Bénin, dans le golfe de Guinée, mais c'est en France, pendant le festival Africa Jar, que notre nièce Hortense Vol l'a rencontrée.
Par exemple, il y a des sociétés africaines, par exemple, où une femme ne pouvait se marier que quand elle avait d'abord fait preuve de sa fécondité. Parce qu'on ne pensait pas épouser une femme, même jusqu'à aujourd'hui, même au Bénin aujourd'hui. On dit, mais pourquoi tu vas épouser une femme, ta femme, vous êtes mariée depuis quand, on dit 4 ans, et vous n'avez pas d'enfant, on ne va pas prendre notre argent, même si c'est l'argent de l'homme, notre argent pour l'engraisser, si elle ne nous fait pas d'enfant. Aujourd'hui, en 2006, on tient encore ce langage. Donc, non seulement l'importance de l'enfant, mais ce que ça représente comme angoisse, pour une femme qui n'en a pas eu, ce qui a été mon cas, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Mon enfant, je l'ai eu, j'avais 40 ans. Donc, la marginalisation aussi. Donc, l'enfant est sacré, mais en même temps, c'est une angoisse. Parce que les sociétés africaines contemporaines, bien qu'il y a, on dit toujours, oui, ça évolue, c'est vrai que ça évolue, mais il y a une grande majorité qui n'a pas accès aux soins scientifiques de la santé pour pouvoir déterminer des facteurs rhésus, des débilités sanguines ou des problèmes même de tout simplement même d'infection ou même de problèmes d'azospermie chez les hommes. Quand une femme ne fait pas d'enfant, c'est elle qui est responsable de ce problème. Alors que moi, j'avais épousé un gynécologue, je sais qu'un homme peut être ne pas avoir de spermatozoïdes, même s'il est fort viril et tout, et c'est toujours les femmes. Est-ce que ça représente comme névrose? Et la plupart des névroses qu'on identifie chez beaucoup de femmes africaines, c'est toujours lié au problème de mettre au monde un enfant, à tel point que donc elles peuvent être dans des hôpitaux psychiatriques, rejetées dans la société, développent des névroses, deviennent folles.
Your name, wonderful is what you are to me. If you are seen my dreams, every day, and I pray for you, queen of my life. You're so beautiful, mama, you're beautiful. Hey, me, mama, mama, Talori, mama, me, Rosary. That is why I'm loving you. Nitori, mama, Ochiya, Nileyako. Mama, me, Rosary. That is why I'm loving you. Oh, la 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 la. Whoa, oh, you're beautiful. Whoa, oh, you're beautiful. Oh, la.
Justement, vous nous expliquez que vous aviez une fille assez tard et que vous aviez subi des pressions. Quelle sorte de pression? La pression familiale, la pression sociale?
Oui, bon, la famille, bon, c'est la désolation, etc. Parce que comme je suis encore une fille, si mes frères font des enfants, c'est déjà... Hein? Mais c'est une espèce, pas de rejet, aussi du rejet, c'est le mot, je pense, qui est approprié. Une espèce de discrimination, d'isolement. Quand on appelle les mères, mesdames, venez ici, c'est-à-dire on appelle les femmes qui ont mis au monde. Et ça, je sentais ça vraiment comme une grande frustration. J'en ai énormément souffert d'avoir pas eu d'enfant. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai prié Jéhovah, la Vierge Marie, Mohamed, tous les saints de toutes les religions du monde. J'ai demandé à Bouddha de faire quelque chose pour moi, etc.
Parce que c'était pas un choix, en fait. C'était que vous aviez pas
eu... Oui, je crois que j'avais un problème d'infection des passages péritonéaux qui empêchait l'ovule de monter dans les trompes, parce que bon, comme j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là et que j'avais épousé un gynécologue, je connais un peu, mais comme je l'ignorais, moi-même qui me suis dû évoluer, etc., je me suis retrouvée dans des rituels, dans des endroits obscurs et pas très rassurants, etc., où on me versait des eaux, où il y avait des racines et des trucs, parce que je voulais un enfant, etc. Comme pour avoir un statut, mais pour asseoir une assurance, même si je n'étais pas tellement faite pour prendre des foyers, ma machin, faire la cuisine, m'occuper de mon mari, mais je voulais avoir, avoir cet enfant déjà. Donc pour dire quand même pour les gens évoluer, le fait de ne pas avoir d'enfant, ça constitue quand même un problème qui peut mener jusqu'à la névrose.
La Sénégalaise Ken Bougoune nous racontait donc son désir d'avoir un enfant pour se sentir femme. Et avec elle, vous avez entendu la jeune chanteuse nigériane Asha rendre hommage elle aussi à sa maman et à travers elle à toutes les mamans du monde. Beautiful, c'était le titre de cette chanson acoustique qui a été enregistrée en avril dernier dans une petite chambre d'hôtel d'Harare, la capitale du Zimbabwe. Alors c'est vrai qu'avoir un enfant, il y a des femmes pour qui ça ne pose pas du tout de problème à en croire leur extrême fécondité. J'en veux pour preuve cette maman camerounaise de 52 ans qui avait été élue maman de l'an 2000. C'était un concours organisé par les autorités du Cameroun. Et cette dame, elle avait eu 18 enfants, pratiquement tous de pères différents. Donc on se demande d'ailleurs même comment les autorités camerounaises, qui sont en même temps censées faire la promotion du planning familial et de la maîtrise des naissances, pouvaient organiser ce concours. Mais enfin, bon. Solo, malgré l'importance capitale que les mamans africaines, bien sûr, accordent à leurs petits, il y a quelque chose qui toujours surprend un petit peu ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la délégation de parenté. C'est-à-dire, en fait, quand un enfant est élevé par une autre maman que la sienne ou bien une parente plus lointaine.
Tout ça est lié au fait que, d'abord, on est dans une société où l'éducation de l'enfant est collective. Et on confie l'éducation de son enfant à une sœur, à une cousine ou une coépouse qui n'a pas d'enfant. Parce que la croyance traditionnelle veut que la maman qui n'est pas féconde, la femme qui n'est pas féconde, le fait de porter un nouveau-né ou un bébé et que ce dernier fasse pipi, caca sur lui, ça porte bonheur et ça rend fertile. Ça, c'est une des premières raisons.
Mais ça veut dire qu'on donne son enfant à une maman qui n'a pas d'épouse. Une femme accepte de faire ça. Enfin, qui n'a pas d'enfant, je veux dire.
Oui, une femme qui n'a pas d'enfant reçoit... Par exemple, ma mère a donné ses deux derniers enfants à sa co-épouse qui n'a jamais enfanté. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais enfanté et qui a élevé mes deux derniers petits frères comme ses propres enfants. Mais une marraine aussi peut décider de prendre en charge l'éducation de son filleul. Et on confie aussi son enfant à une autre cousine ou une tante dans un village lointain. Quand cet enfant s'avère un peu difficile au sein de la famille, enfin des parents, quoi. On l'envoie dans un autre village.
Bon, Solo, je suis désolé parce qu'on a été un petit peu trop bavard. Aujourd'hui, il va falloir qu'on demande la route.
Ah, ben, nous l'accorder, chers auditeurs de France Inter. Demain, on parlera des enfants, même s'ils ont été longuement évoqués aujourd'hui dans le propos des mamans.
Exactement. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on remercie Koyen Nguyen, notre Coco Koy, qui était à la réalisation. La nièce et attachée de production Hortense Vol. Lidwin, qui est à la technique avec son collègue Stéphane. Excusez-moi, je vous les annoncerai comme il faut à la prochaine fois. En tout cas, quant à vous, passez une très très bonne après-midi. On se retrouve demain avec le même plaisir. Wow. Salut.
Il est 15h sur France Inter, les informations, Céline Asselot.
Quarante civils auraient été tués aujourd'hui dans des bombardements israéliens à Houla, une ville du Liban Sud. C'est le premier ministre libanais qui avance ce chiffre. Fouad Siniora s'est exprimé en larmes devant les membres de la Ligue arabe réunis à Beyrouth. Il leur demande leur aide pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. À Houla, le bilan est impossible à vérifier. Les bombardements israéliens continuent sur la ville. Il s'agit là de l'une des attaques d'une journée marquée par d'importants bombardements, comme le rapporte notre envoyé spécial à Tyr, Christophe Lerie.
Le pilonnage des collines et des villages côtiers au sud de Tyr s'est amplifié en milieu de matinée. Les bâtiments de la marine israélienne qui croisent au large ont tiré de nombreuses salves d'obus pour appuyer les troupes au sol. Le son grave des canons faisait trembler les immeubles de Tyr, tandis que les déflagrations formaient des champignons de fumée sur les collines. Les soldats israéliens ont pris des positions stratégiques autour de Nakoura, coupant de fait toute possibilité de mouvement pour les casques bleus de cette